Chapitres 11 et 12. Roboam. Le chapitre 11 nous fait connaître deux faits importants. Roboam avait eu la pensée de ramener les 10 tribus sous le joug de l'obéissance, mais en le faisant, il se serait opposé au gouvernement de Dieu envers Juda. Le prophète Shemaïa le détourne d'une décision qui l'aurait conduit à sa perte et aurait eu les plus graves conséquences pour la tribu de Juda, sur laquelle les yeux de l'Éternel reposaient encore, malgré ses jugements. La grâce agit dans le cœur du peuple. Il écoute l'exhortation et ne donne pas suite à son dangereux dessein. Désormais, le seul devoir de Roboam était d'élever des travaux de défense contre les ennemis du dehors, ennemis qui étaient son propre peuple dont le gouvernement lui avait été jadis confié. Roboam environne de forteresses le territoire de Juda et de Benjamin. Chapitre 11, versets 5 à 12. Son seul devoir était de préserver ce qui lui restait. Mais comment le faire quand déjà le mal était au-dedans et y exerçait des ravages? Cependant, la responsabilité de préserver le peuple n'était nullement diminuée par l'existence d'un mal déjà irréparable. Ce principe est pour nous d'une grande importance. L'état de ruine irrémédiable de la chrétienté ne change absolument rien à notre obligation de défendre les âmes contre les principes délétères qui y sont à l'œuvre. Nous avons le triste devoir d'élever des forteresses contre un monde pareil aux 10 tribus, qui invoquait le nom de l'Éternel tout en s'adonnant à l'idolâtrie, contre un monde qui se pare du nom de Christ tout en se livrant à ses convoitises. Nous avons à faire comprendre et sentir à la chrétienté qu'il y a séparation entre les vrais chrétiens et les professants que Dieu met au rang de ses ennemis. Cette inimitié a mené le conflit entre Juda et Israël, et se lier au culte idolâtre établi et imposé aux 10 tribus par Jéroboam. Le maintien public et officiel du culte de Dieu en Juda eut des conséquences très bénies. Les sacrificateurs et les lévites, qui étaient dans tout Israël, se joignirent à Roboam de toute leur contrée, car les lévites abandonnèrent leur banlieue et leurs possessions et vinrent en Juda et à Jérusalem, et à leur suite, ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient mis leur cœur à chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Chapitre 11, versets 13 à 16. Tous ceux qui avaient un cœur non partagé pour Dieu, bien qu'ayant été englobés pour un moment dans la révolte des 10 tribus, comprennent que leur place n'est pas au milieu d'elles et quittent ce terrain souillé pour venir s'établir en Juda. C'est ainsi qu'un témoignage fidèle, qu'une sainte séparation du monde, produit des fruits chez les croyants retenus jusqu'ici par leurs circonstances dans un milieu que le Seigneur ne reconnaît plus, et qu'ils sont poussés à se joindre à leurs frères qui se réunissent autour du Seigneur. Si ce rassemblement perdit bientôt son caractère, ne fût-ce pas parce que Juda et ses rois abandonnèrent le terrain divin pour sacrifier eux-mêmes aux idoles? En effet, ce témoignage de séparation du mal dura peu de temps. Ils marchèrent dans le chemin de David et de Salomon pendant 3 ans. Et durant cette période, ils fortifièrent le royaume de Juda. Verset 17. Pendant 3 ans. Que n'ont-ils continué? C'est là qu'était la bénédiction pour Juda et son roi, et n'en est-il pas de même pour nous? Elle pouvait être complète au milieu même de l'humiliation définitive infligée à Israël. Elle ne fut que temporaire. Cette bénédiction momentanée, par laquelle le royaume de Juda fut fortifié et Israël affermi, devint elle-même un piège pour Roboam. La chair s'empare même des grâces de Dieu pour s'éloigner de lui. Et il arriva que, quand le royaume de Roboam fut affermi et qu'il se fut fortifié, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël avec lui. Chapitre 12, verset 1. Il suffit qu'un seul homme, préposé par l'Éternel pour paître son peuple, se détourne, son exemple sera suivi par tous. Quelle responsabilité pour lui! Le châtiment ne se fit pas attendre. Parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel, il arriva, en la 5e année du roi Roboam, que Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem avec 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il prit les villes fortes qui étaient à Juda, et vint jusqu'à Jérusalem. Chapitre 12, versets 2 à 4. Judas ne devint pas la proie de son frère Israël contre la religion duquel il se défendait légitimement. Il tomba, chute bien plus profonde, entre les mains d'un monde dont autrefois Dieu l'avait racheté à main forte et à bras étendus. Et, comme jadis, il fut asservi au roi d'Égypte. Le but de Dieu en le châtiant est proclamé dans la prophétie de Shemaïa. Ils connaîtront ce que c'est que mon service et le service des royaumes des pays. Verset 8. Ils pouvaient désormais comparer leurs 3 ans d'affranchissement et de libre bénédiction avec la servitude de l'Égypte. Il y eut, à la suite des paroles de Shemaïa, le prophète, « Vous m'avez abandonné, et moi je vous ai aussi abandonné aux mains de Shishak. » Un vrai travail de conscience dans le cœur du roi et des chefs, car ils s'humilièrent et dirent « L'Éternel est juste ». Et cette humiliation préserva Juda d'une entière destruction. Quand l'Éternel vit qu'il s'était humilié, la parole de l'Éternel vint à Shemaïa disant « Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je leur donnerai un peu de délivrance, et ma fureur ne se déversera pas sur Jérusalem par le moyen de Shishak. Mais ils lui seront asservis. » Verset 7. C'est la grâce. Mais, je le répète, Juda, pour avoir abandonné la parole de Dieu, est obligé d'en subir les conséquences. Tout ce travail de repentance, fruit de la grâce, manque et pour cause en 1 roi 14. Nous verrons le même fait se renouveler constamment au cours de ce livre. Quelle honte pour Roboam! Le beau temple de Salomon n'a pas plus de 30 ans d'existence qu'il est dépouillé de ses ornements et de tous ses trésors. Le culte a perdu sa splendeur passée. Shishak, nous est-il dit, prit tout. Tout. Et cependant, une chose reste encore. L'autel est là. Dieu est là. Pour la foi, c'était au milieu de la désolation et de l'humiliation, beaucoup plus que tout l'or emporté par le roi d'Égypte. N'en est-il pas de même aujourd'hui ? Les chrétiens sont appelés à constater tout ce qui leur manque, par suite de l'infidélité de l'Église, et doivent ajouter « L'Éternel est juste ». Mais ils peuvent aussi dire « Dieu est un Dieu de grâce et ne s'est point détourné de nous ». Nous trouvons ici une parole bien touchante pour nos cœurs. Quand Roboam s'humilia, la colère de l'Éternel se détourna de lui, et il ne le détruisit pas entièrement. Et aussi, il y avait en Juda de bonnes choses. Verset 12. Peu de choses, peut-être, et c'est bien ce que ce terme nous fait comprendre, mais enfin, quelque chose que Dieu pouvait reconnaître. Le jugement final était suspendu à cause de ces quelques détails favorables qui plaisaient à Dieu. Appliquons-nous, chacun individuellement, à maintenir ces bonnes choses devant ses yeux. Que ceux qui nous entourent aperçoivent quelque dévouement pour Christ, quelque amour pour lui, quelque crainte en présence de sa sainteté, quelque activité pour son service. Soyons certains qu'il en tiendra compte et qu'aussi longtemps que cela subsistera, il n'ôtera pas le chandelier de son lieu. Combien notre Dieu est équitable dans ses jugements, même en présence d'un état dont il dit « Il fit le mal, car il n'appliqua pas son cœur à rechercher l'Éternel. » Verset 14. Merveilleuse grâce, en effet, que celle qui, ne supportant aucun mal, se plaît à reconnaître le bien, à le discerner quand l'œil de l'homme est incapable de le voir, soit en lui-même, soit au dehors. Mettez cela en regard de 1 roi 14, versets 22 à 24. Juda fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et ils le provoquèrent à la jalousie plus que tout ce que leur père avait fait par leurs péchés qu'ils commirent. Et ils bâtirent eux aussi pour eux-mêmes des hauts lieux et des statues et des achères sur toute haute colline et sous tout arbre vert. Il y avait aussi dans le pays des hommes voués à la prostitution. Ils firent selon toutes les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. En lisant ces paroles, nous sommes d'autant plus émerveillés de cette infinie bonté de Dieu qui, à cause de quelques justes, ne voulait pas détruire entièrement ce peuple comme il avait jadis anéanti Sodome. Mentionnons encore un détail avant de terminer ces chapitres. Le grand nombre des femmes et concubines de Roboam est une imitation du péché de Salomon qui entraîna la ruine de son royaume. il semblerait que le rapport entre la conduite du fils et du père dût être mentionné. Il n'en est rien. En deux chroniques, Salomon, nous l'avons dit souvent, est considéré comme étant sans faute, et le jugement porte sur Roboam seul. Cependant, même au milieu de ce désordre, et quand Roboam élève au premier rang la fille d'Absalom, le révolté, et Abija, le fils de cette femme, Dieu aime à reconnaître que Roboam agit avec intelligence en dispersant ses fils par toutes les contrées de Juda pour éviter la discorde dans le royaume. Chapitre 11, versets 18 à 23. C'est quelque chose comme la louange de l'économe injuste parce qu'il avait agi prudemment. Luc 16, verset 8.